Merci beaucoup. C'est vraiment une grande joie pour nous, Daniel et moi, d'être avec vous pendant ce week-end, qui est un week-end important pour votre église et pour plusieurs d'entre vous. Et c'est vrai que pendant ce temps de louange, je pensais aux différentes connexions que nous avons eues pendant les années. Alors bon, merci d'avoir rappelé que ça fait plus de 50 ans qu'on se connaît avec Alain et Mathé. Mais moi, j'étais ici aussi alors c'était plutôt, je sais pas si c'était à Guebwiller, mais en Alsace, pour la première école, dans les années 80, j'étais venu, on s'était rencontrés. On a eu un échange pour partager. Sosheim, voilà, c'est ça. Je me souviens de la maison, la petite maison, voilà. Et voilà, donc ça fait aussi quelques années. Et puis, oui, et on collabore toujours. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas que ça fasse aussi longtemps, c'est que on est toujours ensemble après autant d'années. C'est ça qui est le plus surprenant. Et bien sûr, avec les amis Claude et Martine aussi dans le cadre de l'équipe initiative, l'équipe de apostolique initiative aussi, ça fait quelques années qu'on, voilà. Vous savez, on vient du sud-ouest. Alors, le sud-ouest, c'est que nous, Hoche, c'est quand vous penchez, c'est en bas à droite, là. Vous savez, c'est au sud-ouest de Toulouse, entre Toulouse et Bordeaux, un petit département enclavé, mais bon, voilà, dans laquelle Dieu nous a placés depuis des années et à partir duquel nous visitons et nous travaillons dans le royaume de Dieu beaucoup plus largement. Et puis il y a tellement d'autres connexions auxquelles je pensais ce matin. Bien sûr, les amis qui ont fait l'université d'été, Fabrice, Julie et Chloé, qui, donc voilà, dans le cadre de notre formation dans le réseau Nouvelle Connexion, c'est vraiment une joie de les revoir et puis de voir leur évolution dans l'église et dans l'œuvre de Dieu. Et puis plus de manière un peu plus, on va dire, étonnante encore, c'est la famille Klein avec qui nous avons des amis communs à Forbach. Allez, le monde est petit, hein. C'est incroyable. C'était vraiment improbable de faire cette connexion là tout à l'heure, et c'est vraiment encourageant. Voilà. Alors permettez-moi encore un petit aparté très 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 personnel pour Daniel et moi, c'est que on a été aussi particulièrement ému pendant ce chant, un enfant vous est né, un fils vous est donné. Alors bien sûr, vous pensez tous, nous pensons tous à le don du Seigneur Jésus et du Fils de Dieu. Mais pour nous, cette parole a un sens particulier puisqu'il y a, encore une fois, plus longtemps, oui, enfin, donc, la parole. Daniel a reçu cette parole un jour, elle sort de son temps de prière avec le Seigneur personnel, puis elle me dit, ça fait 30 ans, hein. Elle me dit, j'ai reçu cette parole, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Alors nous, on n'a que des filles, à ce moment-là, et très heureux avec nos 5 filles. Enfin, on n'avait pas encore 5 à l'époque, mais c'était vraiment une joie, et je n'ai vraiment, pouvais pas être plus comblé qu'avec nos filles. Quand elle nous dit ça, quand elle reçoit cette parole, moi, ça va être un peu, je sais pas, je sais plus s'il faut dire cartésien, parce que je sais qu'avec le séminaire que vous avez eu, c'est un peu suspect, mais quand même un peu, en tout cas, bien français, je lui dis, ma chérie, cette parole, c'est arrivé une fois dans l'histoire, faut pas rêver, quoi. Évidemment, c'est pas très encourageant sur le plan prophétique, hein, dans le sens que j'ai eu du mal à dire oui, bon, très bien, un fils, moi je suis prêt, hein, mais une parole comme ça, enfin. Eh bien écoutez, des dizaines d'années après, le Seigneur nous a permis d'accueillir un garçon qui nous a été donné. Et dans le cadre d'une adoption, qui était un rêve de très longtemps aussi auparavant, bien avant le mariage, enfin avant le mariage, oui. Et donc voilà, donc cette parole, quand on la chante, eh bien, elle a un double sens pour nous, hein, le sens du Sauveur qui est venu, et puis le sens pour notre famille qui a pu accueillir un enfant qui nous a été donné, un fils qui nous a été donné, et qui a aujourd'hui 24 ans et qui fait notre plus grande joie. Voilà, enfin, voilà un peu pour toutes les connexions qu'on a pu vivre pendant ce temps de louange avec vous et qui nous réjouissent et qui font que, ben voilà, on n'est pas si loin les uns des autres, on est proches sur plusieurs plans et on en sent la présence de Dieu et on se sent vraiment en famille. Voilà. Alors pardonnez notre accent, par contre, disons évidemment peut-être que comment ? Ça va ? Mathé, j'ai l'approbation de Mathé pour mon accent, c'est bon, alors je peux continuer. Mais j'avoue que ça peut paraître un peu étrange pour vous. j'aimerais ce matin, dans le cadre de cet événement qui nous rassemble, en plus de l'événement du dimanche matin, qui est toujours un grand moment, mais de ce temps de reconnaissance de ministère, vous amener dans un parcours d'église du Nouveau Testament qui, étrangement, ressemble aussi à votre parcours en tant qu'église Josué. Cette église à laquelle je pense, c'est celle qui est venue dans mon esprit pendant que je préparais ce week-end, c'est l'église d'Antioche, dans laquelle on trouve bien des grandes similitudes avec ce que nous allons vivre ce matin. Je vais commencer par lire le premier verset à ce sujet. C'est dans Acte 13, au chapitre 13, verset 1er, où nous faisons un peu plus connaissance avec cette église, sa structure, sa gouvernance, puisque ce matin il va être question de gouvernance, et sa vie, son appel, sa mission. Je lis pour vous dans Acte 13, verset 1, « Il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, pardonnez du peu, hein, et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour Chypre, et vous savez comment commence à ce moment-là l'ouverture des nations à l'évangile à travers le ministère de ces apôtres qui vont répandre le royaume de Dieu dans tout le bassin méditerranéen et implanter l'église dans toutes les nations. Donc une église qui a une histoire, qui a été implantée par des pionniers quelques années auparavant. On vous trouvait cela dans le chapitre 11 de Livre des Actes. Et là, c'était des disciples qui se retrouvent dans cette région d'Antioche et qui commencent à témoigner et qui témoignent d'une manière pionnière. Ils témoignent pour la première fois aux non-juifs. Et l'évangile se répand. Les gens se convertissent, des guérisons ont lieu. Et puis, il y a tout un bouillonnement, il y a des miracles, il y a vraiment une vie qui se manifeste au point que de Jérusalem, on envoie ce Barnabas et Saul pour voir un petit peu ce qui se passe, non pas pour contrôler mais pour servir, pour en croire. Et quand ces gens arrivent, ces deux apôtres envoyés par Jérusalem arrivent dans le chapitre 11 des Actes, ils voient l'effervescence, ils voient l'œuvre de Dieu, et la Bible nous dit ils se réjouirent de la grâce de Dieu. Alors ça a commencé par Barnabas, qui est un homme plein de grâce, le fils d'exhortation, qui quand il vient dans cette alors pardonnez-moi l'expression, ce qui devait être un joyeux bazar quand même, hein, c'était voilà, il y avait une vitalité, il y avait un débordement de vie, il voit la grâce de Dieu. Et cet homme qui est touché par ce que Dieu fait là, va chercher Saul, qui n'était pas encore à Jérusalem d'ailleurs, et qui était dans sa ville de naissance, il va le chercher et ensemble ils se mettent à servir ce groupe qui devient une église. Et c'est la première fois qu'on appelle les disciples des chrétiens. Donc un lieu d'innovation, un lieu pionnier, un lieu où où l'évangile a pénétré, a marqué l'histoire, et a marqué l'histoire locale, mais plus encore l'histoire, on va dire, des nations. Alors ce parallèle, permettez-moi de le faire avec votre église Josué, hein. Peut-être vous n'avez pas le sentiment d'avoir le même rayonnement, la même envergure que cette église d'Antioche, mais quand même, il s'est passé de grandes choses depuis, je crois, 33 ans. Plus de 33 ans, j'ai découvert cela hier, que cette église a été implantée. Aussi dans une dynamique pionnière. Dynamique pionnière pour la création de l'église, dynamique pionnière pour l'école chrétienne, hein, qui s'est développée, qui gagne dans toutes les nations. Donc il y a parmi vous cette même effervescence, mais sans le bazar dont il était question ici, hein, rassurez-vous. Il y a cette effervescence de la vie de Dieu et de ce que l'évangile peut créer de nouveau pour manifester le royaume de Dieu dans un territoire qui, jusque-là, ne connaissait pas la grâce de Dieu. Donc voilà, c'est un parallèle qui me semble intéressant et encourageant pour nous aussi. Cette église, dans le texte que l'on lit, on la rencontre en train de se structurer. Il y avait là une équipe, on y reviendra. Plusieurs ministères qui sont là et puis qui servent le Seigneur au sein de cette église. Et je pense que c'est le cœur de ce qui nous rassemble ce matin, de discerner et d'établir les ministères qui servent au milieu milieu de vous. Et en même temps, cette église, elle entre dans son appel d'une manière nouvelle. C'est une nouvelle phase, une nouvelle histoire pour cette église. À partir de cette parole de Dieu dans Acte 13, il y a un champ nouveau de mission qui s'ouvre pour l'église. Jusqu'à présent, elle était un peu centrée sur elle-même, sur sa région. Et puis tout d'un coup, le Seigneur envoie à travers elle, envoie des ministères qui vont toucher les nations. Et c'est comme si cette église entrait dans sa dimension apostolique et prophétique. J'ai beaucoup aimé la vision qui était indiquée ici de votre église, qui est d'être une famille apostolique et prophétique dans le but d'incarner le royaume de Dieu. Et bien c'est un petit peu ce qu'on trouve à Antioche. Cette église va entrer dans son appel et elle va devenir une église qui va rayonner sur le plan apostolique dans toutes les nations. C'est ce que nous appelons dans notre langage aujourd'hui le passage d'une église, on va dire un peu entre guillemets classique, à une église apostolique, ou même à un centre apostolique. Donc pas que ce soit un degré supérieur, mais c'est une évolution. Quand l'église rentre dans sa pleine dimension, et qu'elle se tourne plus résolument encore dans la vision et dans l'appel que Dieu lui a donné. Et j'aime ce moment où cette église sert le Seigneur. C'est notre première mission, hein, servir Dieu. Nous sommes le peuple que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc c'est notre premier ministère que de le louer, de l'adorer, comme on l'a fait ce matin, comme on l'a fait dans nos vies personnelles, dans nos maisons. Et c'est notre première mission en tant que sacrificateur, c'est sûr. Mais l'Église a aussi un ministère envers elle-même. Et c'est tout le soin que nous prenons les uns envers les autres, à travers le pastorat, l'accompagnement, à travers l'écoute, à travers la formation, à travers le fait de porter ensemble les fardeaux les uns des autres. C'est important que l'Église soit aussi, dans ce sens-là, attentive aux besoins, à la façon de répondre aux besoins multiples qui peuvent se révéler en son sein. Mais le ministère de l'Église a aussi une troisième dimension qui est de servir le monde. Et ça, c'est cet appel auquel nous voulons répondre. Et c'est ce que vit cette Église-là qui s'ouvre à la dimension mondiale à travers l'envoi de ces ministères. Et en gros, c'est-à-dire que l'Église n'existe pas pour elle-même. Nous, on aimerait bien garder l'Église pour nous, hein. On aimerait bien que l'Église réponde à tous nos besoins, et puis au moment, en temps et en heure, et que si jamais c'était pas le cas, ça se passe pas en Alsace. Il y a trop de discipline et trop de sérieux. Mais je trouve que dans nos églises en général, dans l'Église en général, cette tendance à faire de l'Église l'instrument qui va répondre à nos besoins, s'attendre à ce que l'Église comble toutes nos attentes, c'est un piège qui fait que l'Église se replie sur elle-même. Et les besoins sont tellement nombreux, c'est vrai, et ils seront toujours insatisfaits parce qu'il y en a tellement. Mais c'est pas la seule raison d'être de l'Église que de veiller sur ses membres, d'apporter la guérison, le soin, l'attention. C'est important, c'est une priorité, mais il faut pas oublier cette troisième dimension qui est de servir le monde dans lequel nous nous trouvons. Et je pense qu'il y a une mutation que le Seigneur est en train d'accomplir sur un plan général, hein, dans le monde, dans l'Église, c'est que tout d'un coup on prend conscience que la parole que Dieu a donnée à Jérémie à travers au peuple de Juda à travers Jérémie, hein, recherchez le bien de la ville dans laquelle je vous ai déporté, intercédez pour elle car votre paix dépendra de la sienne. Cette parole là retentit encore aujourd'hui une plus forte que jamais, dans le sens où, on est dans une culture, un environnement dont on peut se sentir étranger, mais dans lequel Dieu nous invite à investir nos vies, investir notre engagement, notre prière, et servir, chercher le bien, chercher le shalom du territoire dans lequel nous nous trouvons. Et parfois ça demande aussi un élargissement, un changement de mentalité que le Saint-Esprit est en train de créer dans l'Église aujourd'hui et dans toutes les nations. C'est pas le sujet de ce matin, mais c'est juste pour montrer cette façon dont Dieu conduit l'Église d'Antioche dans cet épanouissement de sa vision. Et je pense que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est une promesse aussi pour que l'Église que vous formez ici dans cette région entre dans une plus grande dimension de son appel. À travers l'établissement de ministères, c'est pas quelques personnes qui sont bénies, qui sont reconnues, qui sont mise en avant. Pas du tout, c'est le corps. C'est le corps qui grandit. C'est le corps qui grandit. C'est l'Église qui s'élargit. C'est une capacité pour l'Église, à travers la diversité de ses ministères, de répondre aux besoins et d'entrer plus encore dans sa mission. Donc sans aller plus loin sur ce point, j'aimerais que nous vivions ce temps, non pas comme étant centré sur le parcours de quelques individus en particulier, pour lesquels on va prier, que l'on va reconnaître dans leur appel, mais qu'on vive ce temps comme une étape de croissance aussi pour notre la famille que vous représentez ici. Alors, bien sûr, il faut le temps pour comprendre, pour intégrer, pour assimiler ce qui est en train de se passer. Et je pense que ce qu'on va vivre ce matin va pouvoir nous y aider. Bon, voilà quelques points communs avec cette église d'Antioche que je voulais signaler comme un encouragement et comme un appel à et une espérance aussi à porter pour l'église que vous représentez. Je voudrais revenir sur cette église dans laquelle on trouve une équipe de ministères. Il y avait dans cette église, donc, qui était en Antioche, des prophètes et des docteurs. Je vous passe les noms. Hein, bien sûr, il y aura Paul et Barnabas que l'on a déjà rencontrés, puis les autres qui sont plutôt du coin, et c'est très bien. Et cette église, donc, est servie, elle est animée par une équipe de ministères qui vit un temps, là, dans la présence de Dieu, en cherchant la pensée de Dieu. Mais ça, c'est pas le point que je voulais souligner. Cette église d'Antioche, elle est structurée, elle reçoit une structure de la part de Dieu. Et c'est ce que nos églises aussi sont appelées à vivre. Dans notre famille du réseau de Nouvelle Connexion, on est attentif à discerner et à reconnaître et à établir cette diversité des ministères. Ça fait partie de nos traits distinctifs. C'est une chose dont on parle souvent. Pas comme, vous savez, des fois on a des dadas un peu de chevaux de bataille. Non. C'est pas juste comme ça une idée fixe. C'est vraiment une prière, c'est une conviction. On croit que Dieu, comme dit Paul aux Éphésiens, Christ a donné les uns à l'Église comme prophètes, pas apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants. Éphésiens 4, verset 11. Et l'Église, pour qu'elle entre dans sa pleine mission, a besoin de toutes ses forces, de toutes ses compétences. Les ministères dans l'Église, ce n'est pas la tête de l'Église. C'est pas le sommet d'une pyramide, mais ce sont les ligaments, ce sont les liens qui tiennent le corps. La Bible dit que de Christ, qui est la tête de l'Église, le corps bien assemblé est cohérent grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement. Et les jointures, tous les commentateurs, y compris Calvin, qui a été un voisin hein, il n'y a pas si longtemps, ce sont les décrits comme les ministères. Les ministères sont là, dans cette diversité qui est décrite dans Éphésiens, comme ceux qui vont donner au corps sa force, son dynamisme, qui vont être des liens, qui vont assurer la croissance du corps. Et quand on est dans le discernement des ministères, c'est ce qu'on vise. On ne vise pas la promotion de personne, on ne vise pas autre chose que créer les conditions pour que l'Église soit alimentée, fortifiée. Ce matin, il était question de s'édifier, soit construite selon le modèle que Dieu veut, avec les ressources que Dieu a prévues. Alors, je vous invite vraiment à vivre ce temps ce matin, même si je pense que certains auront besoin, peut-être dans le temps qui vient, de continuer à assimiler, à comprendre ce qui est en train de se passer, comme un moment privilégié, dans lequel nous reconnaissons qu'il y a au milieu de vous des onctions, des compétences qui vont être en mesure de bénir le corps que vous représentez et de lui assurer la croissance dont il a besoin, la stabilité dont il a besoin, le dynamisme dont il a besoin. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Il a donné les uns comme, moi je bénis ce Dieu qui a pourvu, qui a non seulement créé l'Église, il l'a initié, mais il a pourvu à tout ce dont elle avait besoin pour qu'elle se développe dans toute l'histoire. Je sais que ça fait quelques années seulement que dans le corps de Christ, on reprend cette notion de diversité du ministère. Dans certaines églises, encore aujourd'hui, et bien, pendant bien longtemps, on pensait à une église, un pasteur. Très bien. C'est pas notre modèle dans RNC. Non pas qu'on soit meilleur que les autres, que d'autres courants d'église. Simplement qu'on veut accueillir cette parole de Dieu. Qui dit que pour qu'une église soit édifiée, pour que les membres du corps de Christ soient fortifiés, pour que l'église entre dans sa pleine mission, pour que le perfectionnement des croyants soit donné, pour que l'église entre dans son ministère qui est de servir le monde, il nous faut cette diversité d'onction. Cette diversité d'onction localement. On n'a pas tous ces cinq ministères dans l'église locale, mais cette diversité d'onction aussi dans la famille spirituelle à laquelle on appartient. Et ce qui fait que les différentes équipes apostoliques qui servent le réseau et les églises du réseau de Nouvelle Connexion cherchent à rassembler ces onctions pour donner à l'église l'impulsion, la force, la stabilité, la croissance dont elle a besoin. Et ça, c'est une promesse de Dieu qui n'a cessé de tenir pour l'Église pendant des siècles. C'est pas parce qu'on reconnaît depuis peu l'existence d'apôtres et de prophètes que tout d'un coup, ça y est, il y a toujours eu des apôtres, il y a toujours eu des apôtres et des prophètes, il y a toujours eu des enseignants, des pasteurs, des évangélistes, mais ils n'ont pas toujours été discernés, ils n'ont pas toujours été libérés. Et notre volonté, c'est d'être aujourd'hui dans cette écoute de ce que Dieu fait et donne à l'Église, pour libérer cette diversité du ministère, pour entrer intentionnellement dans ce que Dieu donne à l'Église, et permettre à l'Église de vivre une pleine dimension. Amen. Nous sommes dans un temps de croissance ce matin. Alors, ces ministères dont on va parler, certains sont jeunes et d'autres sont un peu moins jeunes. Il n'y a pas que moi qui vieillis, bon voilà. Il était peut-être temps de les reconnaître, mais le fait de les reconnaître prend une valeur importante et ce sera un temps important pour l'Église. Quand on parle de ces ministères-là, on ne sait pas trop de quoi on parle des fois. Apôtre, c'est quoi un apôtre? Apôtre, c'est un chef, c'est un général. Moi, je connais des églises, des courants théologiques dans lesquels l'apôtre, c'est le général en chef que tout le monde doit suivre. Alors ça, c'est pas notre vision dans RNC, je vous rassure. Hein. L'apôtre, c'est celui qui reçoit une vision du royaume de Dieu, bien sûr, et qui a la capacité de servir le peuple de Dieu, et même de servir les autres ministères pour les rassembler, pour les fédérer et pour les libérer. Dans l'image de la famille qui a été évoquée ce matin comme étant le thème, l'introduction, eh bien, les apôtres ont ce rôle d'incarner l'amour paternel et maternel de Dieu. Bon, les pasteurs aussi, les autres ministères aussi, mais parmi les apôtres, ça se fait de manière particulière. Donc c'est toujours dans un cadre familial que l'autorité s'exerce dans l'Église. Pas une autorité qui abuse, pas une autorité qui contrôle, pas une autorité qui domine, mais une autorité qui sert, qui porte, qui fait grandir. Et tous ces ministères-là, dans le ministère d'apôtre, ont ce rôle de faire grandir. Les ministères qu'on va établir et dont je vais vous présenter au fur et à mesure de mon partage sont là pour faire grandir. Ils sont pas là pour briller, ils sont pas là pour exister, pour trouver une place ou pour trouver leur identité. Non, ils sont là pour servir et pour faire grandir le corps. Et quand on se s'ouvre au bénéfice de leur ministère, eh bien, on reçoit le bienfait de la croissance. Donc l'apôtre, en quelques mots, c'est ça. Je vais résumer chacun de ces ministères avec un mot, juste pour résumé peut-être un peu schématiquement, le sens, c'est un ministère de fondation. L'apôtre pose des fondements pour l'Église, parfois aussi dans la société, sur un plan d'une particulier, ça peut être sur le plan de l'économie, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la pénétration de l'Évangile dans un secteur de la société. Il pose des fondements, il amène le royaume de Dieu, il amène la vision, il amène il pose un cadre. Paul dit bien, comme un sage architecte, j'ai posé un fondement. Et de façon à ce que les autres ministères viennent construire dessus. Et c'est ça la préoccupation de l'apôtre, c'est la vision globale pour que l'Église entre dans sa pleine maturité. Le prophète, lui, c'est un ministère de révélation. Ça vous aura pas échappé. Hein, le prophète, alors, des fois, nous, on pense qu'un prophète, c'est quelqu'un qui vient pour donner des paroles à chacun. C'est un des aspects, c'est un des versants du ministère prophétique. Mais le prophète dans l'Écriture, c'est celui qui perçoit le mouvement de Dieu, qui sent un petit peu l'actualité du Saint-Esprit, et qui donc peut conduire l'Église dans cette direction. Et on comprend pourquoi les apôtres et les prophètes sont les fondements de l'Église. Parce qu'ensemble, ils forment un couple, ils forment un tandem, ils forment un duo bénissant pour l'Église. L'un peut indiquer la perspective, l'objectif, parfois à long terme, et l'autre peut-être l'apôtre a la préoccupation de dire bon ben pour en arriver là, on est d'accord dans la vision, vers la vision, mais on va peut-être mettre un pied devant l'autre. Et donc on marche pas à pas, on prend le temps qu'il faut, et la vision de Dieu se réalise. Donc on comprend pourquoi entre autres, les apôtres et les prophètes sont ont une complémentarité essentielle pour l'Église. Et les autres, il a donné les autres comme évangélistes. Et là, on est dans la proclamation de l'Évangile. Moi, j'aime beaucoup les évangélistes. Ils ont une capacité à convaincre. On a des amis évangélistes dans nos équipes. J'avoue que je suis un peu jaloux parce que quand ils annoncent l'Évangile, vous êtes sûr qu'il y a toujours des gens qui s'engagent, qui se convertissent. On est sûr que ça va marcher. C'est pas le mot, mais il va y avoir une réponse parce qu'il y a un don, il y a un talent que moi je n'ai pas à cette mesure-là, j'avoue. Et je suis pas jaloux parce que ils font le travail, donc on travaille ensemble. Il y a pas de compétition, mais capacité de persuasion, d'amener à convaincre, d'amener au choix, c'est une sorte de proclamation. L'Évangile doit être proclamé. Le royaume doit être proclamé. Et puis il y a les pasteurs. Ah, on aime les pasteurs, hein. On a besoin de pasteurs. Pasteur, c'est la restauration. L'apôtre, c'est la fondation. Le prophète, c'est la révélation. L'évangile, c'est la proclamation. Le pasteur, c'est la restauration. Et ce que j'aime chez les pasteurs, c'est qu'ils ne se découragent jamais. Enfin, jamais. En principe, ils ont toujours de l'espoir. Pour l'avancée spirituelle de quelqu'un, la croissance spirituelle, ils sont jamais découragés par le fait que, ben voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Non, ils ont une capacité d'exhorter, d'encourager, de porter à long terme. Et c'est beau, on a besoin de cela dans l'Église. On a besoin, du coup, d'entourer les pasteurs, parce que parfois, c'est ceux qui se fatiguent le plus aussi. Donc, quand on dit qu'ils se découragent jamais, on sait que les défis sont importants et qu'ils ont besoin d'être portés, d'être encouragés. Mais c'est un mystère de restauration. Restaurer les personnes dans leur appel, dans leur identité, dans leur... Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, il y a les enseignants. Voilà, c'est l'éducation. Je ne sais pas ici que je vais vous prendre le ministère d'enseignement. Dans l'Église, comme dans la société. L'enseignement, c'est la formation. C'est la volonté de communiquer un contenu, d'asseoir les bases, les fondements aussi, pour que la maison tienne bon. Tout ça, je sais que ce n'est pas des choses bien nouvelles pour vous, mais... Ce que je remarque, c'est que, pour autant, ces ministères-là, qu'on considère comme cela, je viens de les décrire un peu de manière isolée, quand ils se travaillent en équipe, comme on le voit ici dans Acte 13, c'est encore autre chose. Dans notre volonté de discerner les différents ministères, on n'est pas là pour individualiser, isoler les ministères les uns des autres. On est là pour, au contraire, les discerner, et faire en sorte qu'ils travaillent en équipe. Parce que dans ce texte d'Éphésiens, dont il est dit, quand il dit il a donné les uns comme, moi j'entends, j'espère que vous l'entendez avec moi, il les a donnés ensemble. Pas de manière isolée, on n'est pas dans la recherche de son ministère individuel, on est dans le discernement de son appel, mais dans la volonté de travailler ensemble. Et quand les ministères travaillent ensemble, il se passe quelque chose d'incroyable. Il y a une synergie qui se met en place et qui bénit le peuple. Ici, ils étaient ensemble, les prophètes et les docteurs. Et ça libère l'action de Dieu. Ils servent Dieu et Dieu parle. Et Dieu enclenche une nouvelle saison pour cette église. Eh bien, c'est ça notre prière ce matin. Alors qu'on va établir ces ministères, qu'on va les discerner, eh bien, il y aura pour l'Église, je crois, une nouvelle étape. Je crois vraiment qu'il y a une nouvelle saison. C'est... On n'imagine pas trop, hein, on a du mal, mais vous pouvez rêver ce matin, vous pouvez rêver. Le champ est libre, l'horizon s'ouvre, Dieu pourvoit, Dieu donne. Il y a des choses nouvelles qui vont s'ouvrir à travers ces établissements qu'on n'imagine même pas. C'est presque vertigineux si on... Heureusement que Dieu ne nous dit pas tout, hein. Dieu ne nous dit pas tout. On est là, Seigneur. C'est la méthode de Dieu, c'est de faire au milieu de nous toujours quelque chose qu'on ne croirait pas, même si on nous le racontait. C'est pas que Dieu nous prend toujours à contre-pied. On peut rêver, on peut penser, et puis Dieu nous autorise à cela. Mais quand il agit, ça dépasse toujours ce qu'on a pu imaginer. Eh bien, laissez-vous dépasser par l'œuvre de Dieu. Amen. Prêt à vous laisser dépasser par ce que Dieu va faire? Faut pas craindre, faut pas avoir peur. Quand c'est Dieu qui agit, ça peut nous déstabiliser dans un premier temps, mais c'est bon et c'est grand. Alors aujourd'hui, c'est ce que nous allons vivre. On n'a pas jeûné, peut-être je peux vous rassurer, vous n'êtes pas invité à un temps de jeûne ce matin, mais dans le temps des années passées, le Saint-Esprit a pu parler aux uns aux autres, et je pense qu'il a parlé aussi à plusieurs d'entre vous, et il y a eu des temps de jeûne et prière aussi. Tout cela, c'est ici, c'est, vous savez, ce verset 13, ce chapitre 13, il résume tout un parcours d'église, hein, en quelques versets. Pendant qu'il servait le Seigneur, vous êtes au service de Dieu en tant qu'église, vous êtes à l'écoute de Dieu, vous avez jeûné et prié, et Dieu a parlé dans les cœurs, et puis des ministères se sont levés.